On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Pour parler du raisin, il faut s'en montrer digne. L'on peut prendre son pied à fouler la vendange, mais ne négligeons pas le raisin que l'on mange. Nous pouvons apprécier le doré de ses teintes. Nous le faisons sécher à Damas ou Corinthe. Nous fabriquons avec des gâteaux et des cakes. Son jus contient de la résine chez les Grecs. Pour nos confitures, nous réduisons ce jus et l'apprêt de nos plats vient de l'aigre verju.
C'était un hommage de Jacques Vallée au raisin de table chez nos amis de France Culture. Bonjour à toutes et tous, c'est la rentrée dont va déguster. Nous sommes ravis, chers auditrices et auditeurs, de vous retrouver pour une nouvelle saison de saveurs et de savoirs autour de la cuisine, de la gastronomie et de l'alimentation. Rien de mieux que d'attaquer cette rentrée par une petite cure Uval. Oui, Uval, du latin uva, raisin, muscat du Ventoux, chasselas de Moissac. Il y en a partout dans le nouveau studio 521 de la Maison de la Radio. Il était entièrement refait. Le raisin de table serait détoxifiant, reminéralisant, diurétique. Il aurait aussi, bien sûr, de grandes qualités gustatives et culinaires. C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Tout d'abord, René Reynard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'AOP National Raisin de Table. Alors AOP, rien à voir avec appellation d'origine protégée.
Non, effectivement, c'est Association d'organisation de producteurs.
Voilà.
Et je suis également le président de l'AOP Muscat du Ventoux.
C'est ça, alors là on parle vraiment...
Appellation d'origine protégée.
Ah, absolument, et vous occupez des raisins de table en France, et on va voir qu'il y en a des AOP qui protègent de très beaux raisins de terroir, et notamment aussi le chasselas de Moissac. Vous l'avez précisé, vous êtes producteur à Malemort du comtat de raisins du Ventoux, du Muscat du Ventoux, et ça fait 40 ans que ça dure quand même, et vous nous avez apporté plusieurs variétés de raisins qu'on va déguster ensemble.
Oui, volontiers.
Très bien, et avec nous également, en notre compagnie en ce dimanche en direct, une créatrice culinaire dont on aime beaucoup l'esprit de cuisine. Créatrice culinaire, ça vous plaît pas trop, hein? Cuisinière, tout simplement.
Hein?
Et on aime beaucoup aussi ses recettes malines. Elle est l'auteur de nombreux livres de cuisine, c'est Keda Black. Bonjour Keda, on est ravis de vous retrouver.
Merci.
Vous êtes déjà venu plusieurs fois nous parler recettes. Il y a quoi au menu aujourd'hui?
Du raisin.
Fatalement.
Du raisin sec et du raisin frais aussi, voilà. Puisque c'est aussi un produit de saison qu'on peut cuisiner, cuire ou utiliser frais comme tel. Voilà.
C'est ce qu'on va voir avec vous, Keda. Ils font partie de la bande dont on va déguster. Ils sont à mes côtés en ce premier dimanche. Elvira Masson et Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour petit grain, bonjour gros grain.
Avec des mines allées qui signent votre retour de vacances. L'été fut bon, hein, Elvira.
Peut-être la cure de raisin aussi.
Peut-être la cure de raisin qu'on va tous entamer absolument à partir d'aujourd'hui.
Surtout en usage interne et liquide. Mais alors, et fermenté.
Mais alors pour Elvira, c'est plutôt sec.
C'est plutôt sec, alors je sais pas si c'est ça qui donne bonne mine ou pas.
Oui.
On devrait dire séché d'ailleurs et pas sec.
C'est vrai.
Voilà, je parle de ça. Et Keda aime bien les raisins secs aussi.
Et raisins plutôt fermentés du côté de mon ami Antoine Gerbel, on n'en attendait pas moins.
Bah oui, si peu de raisins de table font des vrais vins, alors on va en parler.
Très bien, pour cette nouvelle saison, on ne change pas une équipe qui gagne. Laurane Thomas pour la réalisation, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre page internet et Djoubaka pour la programmation musicale. Aujourd'hui, Florent Bujon à la technique pour intervenir dans cette émission en direct. Trois possibilités, un mail à onvadéguster@radiofrance.com, l'application mobile de France Inter avec le bouton réagir ou Twitter avec le mot-clé... On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de parler raisin, parlons de souvenirs de vacances. Oui, l'été se meurt, mais nos souvenirs d'été sont bien vivaces. Je vous lance un défi, chroniqueurs et chroniqueuses. Vous avez une seule petite minute pour faire partager à nos auditrices et auditeurs la bonne petite table de vos vacances. Honneur à Elvira, je crois qu'on part en Bretagne.
C'est chaud une minute. Alors moi je suis ravie d'être avec vous, mais si je ferme les yeux très très fort, je suis encore en Bretagne en effet, dans le Finistère Nord, au-dessus de Morlaix, au nord-est de Morlaix plus précisément, dans ce coin magnifique qu'on appelle le Trégor.
Et oui.
Je suis attablée sur la terrasse de bois à l'extérieur du tout nouveau Primel Café à Plouganou, à deux pas de la pointe de Primelle, somptueuse. Je suis installée au comptoir face à la mer. À marée haute, j'aurais l'impression de pouvoir la toucher, la mer justement, tant elle est proche.
Ouais.
Et l'appétit ouvert, je pourrais ainsi commencer à m'attaquer à mes huîtres de la baie de Morlaix,
ah là là.
Un délice, à mes bulots, à mon tourteau ou à mes tourteaux, en me disant qu'au soleil couchant, ce soir vers 20h45, j'aurais sans doute jamais rien vu d'aussi beau de ma vie.
Oh là là, belle carte postale Primelle gourmande.
Primelle Café, place des Frères Poupon à Plouganou.
Pour manger, si j'ai bien compris, des huîtres et
ah,
des
oui.
fruits de mer locaux.
Oui.
Parfait. Ben écoutez, on va y aller sur votre conseil, évidemment. Antoine Gerbel, il y avait de l'Ardèche au menu de vos vacances.
Eh oui, on va aller très vite. On est sur l'autoroute. Mon décélère, on sort au sud de Lyon, à Nonnet. C'est un lieu un peu improbable, complètement oublié. Vous savez, cette France qui est quand même déclassée, il faut le dire, à Nonnet, c'était les grandes industries. Jadis, les frères Montgolfier. Et aujourd'hui, c'est quand même le désert. Et il y a un jeune couple qui s'est installé, Noémie et Mathias Merle. Alors, deux Annonéens natifs, mais lui, il est autodidacte. Il a fait ses classes chez quelqu'un que vous connaissez, Mathieu Austin Taillard.
Et bien sûr, le Sillon à
le
Lyon.
Le Sillon à Lyon, exactement. Ils viennent d'ouvrir leur petite auberge, toute simple, toute naturelle et tellement sympathique. Je suis rentré là, pas tout à fait par hasard, parce qu'on m'avait soufflé à l'oreille qu'il y avait une jolie carte de vin bio nature, entre 20 et 30 euros les bouteilles. On se régale, plein de choses plutôt de la Loire et de l'Ardèche. Et le menu, c'est 24 euros, 3 plats. Que des produits bio, que des produits locaux. Il m'a fait découvrir notamment la ferme de Trafan qui fait un cochon extraordinaire, des saucisses eux-mêmes. Enfin, c'est magnifique. Le grand sourire, c'est lumineux, c'est sur un petit rond-point. Donc voilà, vous attendez pas, on est loin de la plage et de la mer d'Elvira. On est dans le Haut-Ardèche, mais on fait revivre un pays. Il faut les encourager. Ça s'appelle Radicelle, 21 rue Montgolfier à Annonay.
Merci beaucoup Antoine. Eh bien moi je vous emmène dans un endroit que vous connaissez tous les deux très bien. Patrimoniaux.
Oui.
Patrimoniaux, si vous voulez vous faire des amis en Corse. Ah, il réagit pas Antoine. Oui, Patrimoniaux, ça lui dit rien.
Le rond-point de Patrimoniaux, je connais très bien.
Voilà.
La famille Arena.
La famille Arena notamment. Patrimoniaux connu donc évidemment pour ses vins et de plus en plus fréquenté par les gourmets également pour sa pizza de terroir servie au restaurant Libertalia.
Ah.
Le pizzaiolo italien Paolo Gasperini façonne une pâte à partir de farine de blé insulaire et bio, fermentation de 72 heures. Il garnit cette pâte avec une sauce tomate maison préparée évidemment avec les tomates bio du potager et que des matières premières locales. Cuisson au feu de bois.
Pizza au figatelle, non?
Et résultat. Alors, le figatelle, ça va venir, mais il faut attendre un peu l'automne. Absolument, cette saucisse de foie de porc. Je disais que la cuisson était au feu de bois et le résultat est resplendissant. J'ai choisi une margarita. Alors, évidemment, pas de mozza puisqu'on joue le locavorisme, mais un fromage frais de brebis fermier à la place et du basilic frais du jardin. Elle était proprement délicieuse avec sa pâte fine et croustille moelleuse, un peu à la romaine. Hein. On n'est pas dans l'école napolitaine, on serait plutôt dans une école pâte fine, mais quand même bien croustillante et craquante. Et Paolo concocte également une marinara ou encore une trois fromages qui ne comporte que des fromages corse, fermier et bio. Voilà, ces pizzas sont locavores. Elles sont servies dans un splendide jardin avec vue sur l'église romane de Patrimoniaux. Et à noter que le patron du Libertalia, Pierre-François Maestracci, fabrique également les bières naturelles Ribella. Et il organise les 13, 14 et 15 septembre prochains à Patrimoniaux. Ribellazione, c'est un festival slow food avec des concerts, de la dégustation, des débats. Et cette édition sera consacrée au pain et elle sera, figurez-vous, parrainé, tiens, par Arnaud, notre ami et chroniqueur Arnaud Daguin. Absolument, Ribellazione, le 13, 14 et 15 septembre à Patrimoniaux. Toutes les infos sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Allez, on est encore un peu en vacances. Alors je vous sers une portion de folk à texte avec des tonalités africaines. C'est Avalanche, le dernier titre de Batlick. Belle rentrée sur France Inter.
Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. celle-là. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, ah, c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde. Mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige.
Ça y est, on les voit arriver ces jours-ci sur nos étals, ces jolies grappes aux reflets dorés, avec parfois d'ailleurs des taches de rousseur. C'est le fameux chasselas de Moissac, un raisin emblématique du patrimoine français, cultivé autour de Moissac. On est dans le Tarn-et-Garonne, mais sa culture s'étend aussi dans le sud du département du Lot. Notre reporter Stéphane Combe est allé à la rencontre d'une chasselatière. C'est ainsi qu'on appelle une productrice de chasselas. Elle s'appelle Violaine Moll et elle conduit ses vignes en agriculture biologique à Cazes-Mondénard. On est à une quinzaine de kilomètres de Moissac. Allez, c'est parti pour une balade dans les vignes avec Violaine Moll, accompagnée de Gilles Adjier, technicien du syndicat du chasselas de Moissac AOP.
Là, on est en train de se déplacer au milieu des vignes. Ces vignes de chasselas, elles sont très hautes. Voilà. Les grappes sont quasiment au niveau de mes épaules.
Déjà, le premier avantage, c'est lors de la récolte, en fait, les ramasseurs sont plus obligés de se pencher et se retrouvent avec le raisin à niveau d'épaule. Donc,
confort pour la cueillette, quoi. Alors Stéphane, on parle de cueillette du chasselas, hein. On ne parle pas de vendange, hein, puisque notre chasselas ne donne vraiment que du raisin de bouche. Donc le mot vendange, il nous heurte les oreilles ici.
Hein. C'est vrai, c'est
voilà,
vrai.
C'est que du raisin. Regardez Stéphane, regardez ces grappes-là.
Elles sont belles, hein.
Regardez.
Elles sont,
on est monté un peu dans la vigne, on voit vraiment.
Voilà, elles sont au niveau de ma tête. Hein.
Et la coloration.
Un grain qui est bien blanc. Hein.
Voilà.
Jaunâtre même.
Et bien doré. Et quand on commence à voir le pépin au travers du grain, là, on commence à avoir la bonne maturité. C'est un des signes qui nous permet de commencer la récolte.
Montrez-moi comment, Violaine, vous coupez. Vous prenez le sécateur.
Le but, c'est de le toucher le moins possible. Voilà, on va attraper la queue de la grappe, toucher le moins possible les grains. Et ensuite, on va le poser délicatement dans le plateau. On va essayer de pas trop le secouer, de pas le tasser, de manière à ce que les grains ne s'écrasent pas. Le but, c'est pas de faire du jus ou du vin, justement. C'est de le garder correct et propre, joli, jusqu'à l'étalage.
Franchement,
il commence à être sucré.
Pour du raisin de bouche, c'est pas tout à fait sucré, mais c'est quand même déjà bon, ça se mange.
Voilà, tout à fait, c'est une histoire de délai, hein.
Alors, les grappes qui se présentent en face de nous, ce ne sont pas des grains qui sont énormes.
Non, le chasselas est classé dans ce qu'on appelle les raisins à petits fruits, avec un pépin. Il est parfaitement adapté à notre terroir. C'est-à-dire qu'on arrive à Moissac, grâce à nos sols et nos techniques, à avoir des grappes qui soient souples, hein, c'est-à-dire qui ne soient pas compactes comme du raisin de cuve, et qui soient colorées. Puisque les trois critères de l'appellation, c'est la coloration dorée, ensuite le taux de sucre minimum, et ce qu'on appelle la compacité de la grappe. C'est-à-dire qu'une grappe qui est trop compacte, dont les grains sont carrés, ne peut pas faire d'appellation. Et donc pour cela, peu d'engrais, peu d'intrants, très peu d'azote. Donc le Chasselas de Moissac, c'est une variété bien adaptée à notre terroir. Regardez cette grappe, elle est magnifique. Ça, c'est une grappe AOP. Donc cette grappe, ouais, Violaine, tu peux la cueillir. Donc quand on a une grappe comme ça en main, vous voyez, on la tient par le pédoncule, on n'aime pas voir les gens tirer sur le grain comme ça. Après, ça sèche et puis là, donc on prélève toujours un grappillon comme ça, délicatement, ah oui. Et on mange le grappillon.
Ah oui, donc, alors, si vous voulez, faut pas manger grain par grain le
grain
raisin.
Par grain.
Donc, le raisin de bouche, voilà. Ça se mange.
Vous pouvez mettre les quatre dans la bouche, hein. Le pépin.
Je le sens quand
on
le
sent très bien.
Au moment où je mange le grain de raisin, il y a le pépin.
Donc quand on...
là, il est coincé entre les dents même. Hein.
Oui, mais voilà. Ça mange très facilement.
Et là, moi, je conseille fortement aux consommateurs de l'écraser dans leurs dents et de le goûter. Parce qu'en fait, ce pépin contient ce qu'on appelle les polyphénols, hein, et c'est un antioxydant. C'est très, très bon pour la santé.
On en retient des choses sur le Chasselas de Moissac. D'abord, on ne dit pas vendange, mais cueillette quand il s'agit de raisins de table, hein, contrairement aux raisins de cuve de notre ami Antoine Gerbel. Mmh. Donc, on ne parle pas de vendange, hein. Et le mode d'emploi de dégustation, est-ce que vous saviez qu'on n'égrenait pas la grappe, mais qu'on prélevait un petit grappillon en fait que l'on dégustait, on fait une mini grappe et on met dans la bouche, on tire, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement, on prend des petits grappillons,
oui.
En gros on adapte en fonction de son appétit, ou de son appétit, la grosseur du grappillon à laquelle on veut.
Mais on ne laisse pas une grappe pelée à son voisin, quoi.
Oui.
De sorte aussi, c'est un peu une histoire de manière de table, quoi.
Évidemment, ça s'appelle de la politesse ou de la courtoisie. Vous nous expliquiez pendant la diffusion de ce son, cher René Reynard, une méthode pour épépiner le raisin.
Oui, avec un trombone.
Oula.
Vous ouvrez le trombone en deux.
L'instrument
donc,
musique.
Un trombone pour les feuilles, pour accrocher des feuilles.
Bien sûr.
Donc vous ouvrez le trombone en deux, petit côté, grand côté. Le grand côté, vous le prenez entre vos doigts, et le second, vous l'enfoncez dans le trou du pinceau que le pinceau a. Ensuite, vous cherchez le pépin, vous tirez, vous sortez le pépin.
Bah, vous imaginez sur chaque grain.
Ça se fait.
Et en même temps, il paraît que les pépins sont très bons pour la santé, ils sont bourrés de polyphénols, on peut aussi les croquer.
Oui, c'est ce qui revitalise les hommes quand ils ont atteint une certaine faiblesse.
C'est ça. Le Chasselas de Moissac, une jolie grappe souple aux petits grains dorés. Il y a parfois des taches de rousseur. Alors, il paraît que ces taches de rousseur sur le Chasselas de Moissac, c'est l'effet loupe dû au premier rayon de soleil sur la rosée du matin. Et ça crée ces taches de rousseur sur la peau du raisin. D'ailleurs, cette peau est fine. Il y a assez peu de pépins. Le jus est sucré. Pour la palette aromatique, l'appellation parle de fleurs de tilleul jusqu'au miel. Est-ce que vous appréciez, Kéda Black, ce Chasselas de Moissac?
Oui, bah, j'ai dû subir le même effet loupe.
Oui, c'est ça. Vous avez aussi des taches de rousseur.
Oui, j'adore ça. J'ai envie de le croquer. C'est vrai qu'il y a ce côté très, très miel.
Oui.
Mais qui peut aussi être cuisiné, vu qu'il supporte la cuisson. Enfin, d'ailleurs, peut-être même d'autant plus si la saison n'est pas forcément idéale, s'il n'est pas à son top de sucrosité pour être croqué comme ça. Ça marche très bien cuit, rôti dans une poêle, ou même finalement, peut-être de façon qui permet de plus concentrer, encore plus d'accentuer ce côté concentré en jus, c'est de le rôtir au four.
Ouais.
Soit la grappe entière, en fait, avec la tige, ce qui permet que ça se tienne, en fait, que le jus ne s'échappe pas, rôti comme ça, seul, pour ensuite accompagner une viande ou alors rôti dans un plat de légumes. Si on fait un beau plat de légumes rôtis, de légumes d'automne, de courge ou une tranche de chou-fleur, voilà, avec huile d'olive, sel, poivre, etc. On glisse une grappe de raisin, c'est très beau et ça apporte ce côté juteux et vif et sucré qui est très bien.
En voilà une bonne idée, la grappe entière rôtie au four, temps de cuisson et température.
Alors ça dépend, si on le met avec des légumes, on peut très bien voilà se caler sur le temps des légumes, mais plutôt 190-200 et entre 20 et 40 minutes, ça sera plus ou moins, ça dépend aussi de la taille des grains, enfin on prend pas beaucoup de risques en fait, ça sera bon dans tous les cas. Voilà.
C'est une méthode qui fonctionne bien.
Qui fonctionne bien.
Et sinon, vous aviez un...
Et sinon, il y a une variante de ça qui est qui est celle de ce cuisinier mi-anglais, mi-israélien, qui s'appelle Yota Motolanghi,
oui.
et qui lui, pour des salades, emploie une méthode de plus de presque de dessèchement où il les confie en fait en toujours au four, cette fois épépinés les grains
avec un trombone.
Pardon, je voulais pas dire épépiner, je voulais dire égrapper.
Donc,
on peut les épépiner. Moi, le grain me gêne pas. Je trouve ça fait un petit côté croustillant. Et là, cette fois, sans huile d'olive, mais avec éventuellement un petit peu de sucre pour caraméliser très légèrement. Une épice du genre graine de fenouil ou du poivre de Timur ou quelque chose comme ça, quelque chose qui relève un peu. Et un petit peu de sel. Et là, donc, sur une plaque au four plus longuement, pendant au moins une heure et plus bas à 140 degrés. Et là, ça donne un effet un petit peu, j'en ai apporté là.
Semi-confit ?
Un peu plus confit, voilà, mais avec quand même toujours beaucoup de jus parce que c'est quand même très, très, très riche en jus. Et ça, c'est parfait.
On peut goûter, Guida ?
C'est parfait, ouais, je l'ai fait passer comme ça. Là,
c'est un peu la méthode que l'on applique à certaines petites
nature.
Tomates.
Oui, voilà, c'est ça. Sauf que les grains sont plus petits, c'est encore plus juteux. Il y a ça, voilà.
Mmh.
Et ça, c'est
ça génial.
Et on met ça sur des salades, par exemple. Là, j'avais fait une petite salade de fenouil un petit peu marinée. Ça, voilà, ça donne
un côté aigre-doux,
une touche aigre-douce. Mmh.
Visuellement,
comme
on croirait des olives noires.
Ouais. Voilà.
Ouais. Mmh. Et on dirait presque des raisins un peu botrytisés, c'est-à-dire qui ont perdu leur humidité et qui se concentrent en sucre comme une vendange tardive ou...
Exactement, avec un côté grillé, avec une acidité quand même. On a l'acidité plus marquée que dans les vendanges tardives, qui concentrent un petit peu plus le sucre. Là, ça concentre naturellement l'acidité du raisin de l'époque et de l'année aussi, parce que il y a des goûts de raisin, on va en parler, hein, mais il y a vraiment même des millésimes dans la qualité des raisins de table.
Oui, c'est vraiment tout à fait étonnant.
Et à propos du Chasselas, on peut signaler pour les amis franciliens qu'il y a quelques vignes magnifiques à voir du côté de Fontainebleau, à Thomery. C'était une production de Chasselas destinée à la capitale jadis, et c'est original comme production puisque les vignes sont contre des murs le long de la Seine et donc par réverbération le Chasselas mûrit avait une très belle notoriété parce que dans le Nord c'était bien évidemment avant compliqué de faire pousser du raisin.
Voilà, il n'y a pas que Moissac du coup comme bassin de production
pour
appellation. Le Chasselas, mais ce n'est pas une appellation car effectivement le Chasselas de Moissac a obtenu son appellation d'origine contrôlée en 1971. Ce fut d'ailleurs le premier fruit de France à obtenir ce signe officiel de qualité, lequel s'est transformé en appellation d'origine protégée, donc c'est son équivalent européen, en 1996. Et preuve que le Chasselas de Moissac a une vraie importance patrimoniale, il est reconnu site remarquable du goût par le gouvernement depuis 2003. Et il y a un autre raisin de table, évidemment, qui a également son appellation d'origine protégée. Je crois même que ce raisin fête les 20 ans de son AOP cette année, si je ne me trompe pas, René Reynard. C'est
oui,
le Muscat.
C'est exact. Et c'est le Muscat du Ventoux que nous fêtons notre 20e anniversaire d'AOP.
Oui.
Et nos 22 ans de AOC.
Alors là, vous êtes au-delà de vos responsabilités transversales sur tous les raisins de table en France. Vous êtes vraiment producteur du Muscat du Ventoux. Décrivez-nous ce Muscat du Ventoux et faites-le nous imaginer, goûter pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
Alors, le Muscat du Ventoux est dans la catégorie des raisins noirs. Donc, nous avons un cahier des charges qu'il faut respecter.
Mm-hmm.
Et donc, il faut avoir au minimum des grappes de 250 grammes. Un degré Brinz de 18 degrés.
Degré Brinz, là on parle du
taux
sucre.
De sucre.
C'est
taux
ça.
De sucre. Et donc ce qui fait rapport sucre-acidité de 16 grammes et des broutilles. Voilà. Donc par contre, chaque colis est accompagné d'une étiquette qui vise à retrouver le producteur au cas où il a failli. Donc, nous avons aussi une traçabilité parfaite du colis, qu'il soit colis de 5 kg, 7 kg, ou bien tout simplement de la barquette comme vous avez là.
Très bien. Comment se présente cette saison ? Effectivement, Antoine Gerbel nous disait que il y a évidemment aussi des millésimes pour le raisin de table, comme pour le raisin de cuve. Cette rentrée 2019 pour le Muscat du Ventoux ?
Alors, pour le Muscat du Ventoux, nous sommes légèrement en retard, mais légèrement d'une semaine.
Pourquoi ?
Compte tenu des conditions climatiques du printemps, dans lequel nous avons un printemps froid. Ensuite, un été très chaud. Et le fait des deux, ça fait que nous avons quelques blocages de maturité.
Il y a d'ailleurs plus de retard chez vos amis du Chasselas de Moissac. Normalement, il apparaît sur les étals autour du 20 août. Quand Stéphane Combe est allé faire son reportage, le raisin était à peine mûr, alors que normalement, c'est autour du 20-25 août. Hein. Là, il y a 10-15 jours de retard aussi.
Chez eux, oui. Tout simplement parce que chez nous, hier soir seulement, nous avons eu la première pluie depuis le mois de mai. Donc, ce qui fait que nous avons eu un été très sec, très chaud, qui fait que nous avons aujourd'hui des grappes d'excellente qualité, avec un millésime qui sera très exceptionnel, compte tenu que nous n'avons aucune pluie. Et par contre, comme nous avons la chance d'avoir de l'irrigation au goutte à goutte, par de l'eau qui est de surface, de ruissellement, par la portée d'eau, par des retenues collinaires qui est un peu grande, c'est le barrage de Serre-Ponçon. Et ensuite, tout par gravité, puis par circuit collectif, nous avons donc de l'eau qui est réutilisée, non pas se jeter directement à la mer.
On va discuter dans un instant des conditions de culture, justement, des raisins de table. Certains même se posent à juste titre des questions sur l'emploi des traitements chimiques, l'irrigation dans les vignes de raisins de table en France. On va bien entendu évoquer ce sujet. Est-ce qu'il vous plaît ce Muscat du Ventoux 2019.
Ouais, très sucré, il est
très sucré, on est d'accord. Mais quand j'ai dit très sucré à notre ami René Reynal, il dit oh là là, soyez pas dans les extrêmes, il est pas très sucré, vous allez effrayer les gens, c'est un fruit calorique. Est sucré, c'est une qualité.
Sucré est une qualité, surtout que ce sont des sucres légers. Ce ne sont pas des sucres gras.
C'est ça.
Donc des sucres légers. Et c'est en mangeant du raisin qu'on a la forme sans avoir les formes.
Ah, pas mal.
Et donc, de ce fait, nous pouvons consommer du raisin, puisqu'il y avait des cures uvales qui faisaient que nous consommions des raisins pendant 3 semaines pour justement avoir tout son effet de santé.
Détoxifiant, diurétique, reminéralisant.
Avec l'absorption de polyphénol important. Voilà.
Et la monodiète de raisin ou la cure de raisin qu'on pratique beaucoup aujourd'hui, elle a ses racines, notamment en France, belle époque, à Moissac, où il y a carrément une station uvale où l'on venait consommer du raisin à l'état brut ou également sous forme de jus pour se redynamiser, tout simplement.
Il y a Moissac, puis ensuite il y a Avignon, avec la station Uval à Avignon, et puis une station, je dirais, éphémère, à Marseille, face au palais de justice, que nous avons une station Uval. Et puis il y avait aussi une station Uval à Paris, gare de Lyon. J'ai essayé, j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé.
Je crois qu'elle n'existe plus. Mangeons du raisin frais. Et pourquoi pas sec avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Raisin sec ou raisin séché, Elvira Masson, c'est au choix.
Ah, c'est quand même 4 fois plus calorique qu'un raisin frais. Hein.
Oui.
Voilà, donc là on est moins dans les...
Puisqu'il est concentré en sucre, il a perdu son humidité.
Exactement. Alors il en va des raisins secs comme de certains autres aliments à fort pouvoir clivant, comme au hasard les haricots, le melon, le poivron. Il y a ceux qui les abhorrent et ceux qui les adorent. Moi je fais partie de la deuxième catégorie, j'en ai toujours chez moi de toutes les couleurs, du plus blond au plus foncé, de tous les gabarits, du petit raisin de Corinthe.
Vous l'avez dans les mains, il est tout petit celui-ci,
tout petit, hein, tout ridé. Petite tête d'épingle, toute noire, toute fripée, originaire de Corinthe en Grèce, mais produit partout, en Afrique du Sud, en Australie, etc. Au brun gabarit moyen de Smyrne, au gros et moelleux blond raisin Thompson.
Ah, il est impressionnant celui-là, il est même extraterrestre, tellement il est gros.
C'est un jumbo.
Moelleux.
À l'approche de Noël, je bois des litres de Glögg, le vin chaud suédois qui réchauffe les longues nuits d'hiver scandinaves, pas tant pour le vin, quoique, que pour les raisins de Corinthe qui traînent au fond du verre. Je connais pas grand-chose de plus heureux que le mariage de la crème pâtissière et du raisin sec. Je trouve que la plombière, la glace rhum raisin, est la meilleure des glaces au monde.
Qu'on a tendance
J'aime
à oublier.
La torta di ricotta au raisin sec, les puddings au raisin sec, le kugloff. Je peux manger des kilos de hot cross buns et de scones, mais je parle qu'Eda des sultana scones, ceux au raisin sec, sultana étant le nom anglais du raisin blond de variété Thompson Seedless, c'est-à-dire sans pépin, sans m'être jamais posé tellement la question de la provenance ni tellement de la méthode de production. Aujourd'hui, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Chili en produisent des quantités industrielles, avec des méthodes plutôt industrielles également. Les grains sont plongés dans de l'eau très chaude, puis passés dans des tunnels de déshydratation. Ah oui, puis pour obtenir des raisins secs blonds, les grappes de Thompson Seedless sont plongées dans l'eau chaude donc, puis traitées par fumigation à l'anhydride sulfureux, ou dioxyde de soufre, c'est le E220, afin évidemment de bloquer l'oxydation du grain de raisin.
Bon.
Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas tellement envie d'avaler du E220 pour le goûter.
Nous non plus.
Ce qui serait génial, c'est qu'on se mette à mettre le même soin à choisir ses raisins secs qu'on le fait avec le soin que l'on met à choisir des amandes et des noisettes. Ce serait bien, non? Alors, il y a bien une méthode artisanale toute simple et idéale. Elle consiste à faire sécher les raisins au soleil direct, sur des claies, comme on le fait notamment pour les tomates que l'on fait sécher au soleil.
Ou sur des, pour les figues.
Exactement, sans rien y ajouter. Alors, c'est évidemment pas la pratique la plus courante. Moi, je rêve de pouvoir mettre la main sur des raisins secs de Rivesalt, de Banyuls. Ah, vous allez me dire qu'ils ont des grains et qu'ils sont pas forcément propres à la transformation en raisins secs, mais imaginez du raisin sec de Malaga, de Setúbal, de Pantelleria, de Syracuse. Toutes ces terres où l'on cultive ce raisin de soleil qui donne naissance à des vins doux comme des nectars. Vous imaginez le rêve, un pain au raisin de muscat de Rivesalt. Du muscat, on en produit également au Maroc. Du côté de Meknès, ville voisine de Fès, d'où vient une recette de couscous que j'adore. Parce que le raisin sec, c'est aussi l'ami du couscous.
Dans un très joli plat en céramique.
Le couscous tfaya, T-F-A-Y-A. Un couscous sans légumes, mais avec un mélange génial d'oignons quasi confits. Attendez, il faut verser ça dedans.
Ah pardon.
Le bouillon.
Parce que je commençais déjà à embarquer
le plat qui sort.
Alors imaginons quand même une très jolie semoule bien fine et avec effectivement...
Ce mélange d'oignons de confits, donc je vous ai rapporté des oignons de Roscoff que j'ai fait confire ultra longtemps, avec de la cannelle, avec de la fleur d'oranger, avec du safran, avec du curcuma, une grosse poignée de raisins secs.
D'assembler le.
Et j'ai cuit le poulet couscous en bouillon avec un bâton de cannelle et des oignons de Roscoff. Là, François Régis, vous venez d'arroser la semoule, les confits d'oignons, les raisins secs avec le bouillon, vous prenez une photo en même temps. Vous voulez pas vous rendre utile et goûter plutôt que faire des photos?
J'étais en train de prendre... Je voulais absolument immortaliser cette recette car non seulement elles sont très bonnes, mais je pense que la dégustation va très bien se passer.
Allez,
j'ai mis tout le bouillon et on va faire un crash test avec
Kéda
Black. Mais je suis pas très inquiet.
C'est le couscous tfaya, oignons, raisins secs que l'on mange traditionnellement.
Ça sent le souk, ça sent très très bon.
Ça sent le souk.
Avec des pois chiches aussi.
Je crois que ça va être une réussite.
Alors,
René Renard en veut certainement un peu, non?
Si.
Parce que moi le raisin sec, j'adore ça dans les gâteaux en pâtisserie, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien aussi avec ta semoule?
Bah c'est quand même aussi l'accord avec des épices en fait, qu'on retrouve aussi dans les gâteaux, c'est ça qui marche bien.
Alors, c'est bien?
Non, c'est génial.
Où
est-ce que vous avez trouvé cette recette?
Recette de fès.
Faites goûter à...
Couscous tfaya.
C'est...
Allez à vous.
Non, franchement c'est prodigieux, non?
Oui, et puis c'est pas trop sucré, parce que c'est ce qu'on peut craindre quand on utilise les raisins secs. Hein. C'est au moment de le croquer, même quand on fait une salade de carottes râpées, on peut en mettre avec côté des pignons. Mais c'est, moi je crains souvent ce côté un peu sec et trop sucré. Il faut garder du jus, c'est ça. Et ton idée est excellente de faire des raisins secs d'appellation d'origine avec le vin. En ce moment, on récolte.
C'est une idée à souffler.
Dans l'Andalousie, on récolte le Pedro Ximénez, vous savez, ce vin très particulier. Et là, on cueille les grappes, on les pose à terre, méthode millénaire que faisaient les Romains, les Grecs. Et on retourne, bien évidemment, à l'air pour que ça ne pourrisse pas. Et après, on peut le presser. Et là, on a un nectar extraordinaire.
René Renard, alors, verdict.
C'est dingue.
C'est bon.
C'est vrai.
Vous tombez dans les pommes ou dans les raisins?
Non, c'est excellent, c'est du raisin, donc c'est très bon.
Mais alors, pas de tradition en France, comme le précisait Elvira, de raisins secs.
Et non, parce qu'en France, malheureusement, nous sommes un peu dans l'hémisphère au nord, mais au nord de la production. Et nous ne sommes pas comme en Espagne, ou bien en Grèce, ou en Turquie, qui ont beaucoup plus de chaleur. Et pour le séchage des raisins naturels, bien entendu, il faut un gros soleil. Peut-être que ça viendra dans quelques temps, quand nous aurons un réchauffement climatique un peu plus fort, où nous allons gagner quelques degrés, et ça nous permettra de sécher les raisins.
Le raisin sec, c'est aussi l'affaire de notre amie cuisinière Kéda Black qui nous a fait une superbe recette à base de raisin sec. Alors vous annoncez juste la couleur et on explique la recette dans un instant.
Que je vais faire passer, ce sont des Welsh cakes, des petits gâteaux gallois. Puisque les anglo-saxons ont aussi une bonne tradition de cuisine de gâteaux au raisin sec.
Une super recette au raisin sec. On vous l'explique avec Kéda Black juste après. Alani, chalala.
When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothe me, baby. Then I heard from one of your guys, all you told me really was a lie of me. Darling, you hurt me, hurt me.
va déguster reprend du service avec le raisin de table au menu. On se lâche sur les grappes que nous a apporté René Reynard. Merci beaucoup. Vous êtes président de l'AOP National Raisin de Table. Vous vous occupez du muscat du Ventoux, du chasselas de Moissac. On évoque toutes ces variétés de raisins, toutes ces appellations formidables qui poussent un peu partout en France. Et on évoquait juste avant notre pause musicale cette fameuse recette de Welsh cake, Welsh comme gallois, hein.
Oui, c'est
même
ça.
Si Kedda Black, vous êtes plus écossaise par votre papa que galloise en fait.
C'est ça. Mais bon, ça fait partie de la même tradition britannique de gâteau, de pâtisserie.
Alors, comment le décrire justement ce gâteau, ce Welsh cake?
C'est comme un sablé en fait, oui. C'est une pâte quand même très beurrée, c'est je crois pour 500 grammes de farine, on est près des 350 grammes de beurre, donc
c'est pas
un hasard si c'est bon, et même les plus gourmands les mangent comme ça, tartinés encore de... Enfin, quand j'étais enfant, je tartinais encore en plus de beurre.
De beurre,
non, pas de confiture, parce que justement, ça peut-être que ça Il y a le raisin qui suffit à apporter la touche sucrée. Donc, c'est une pâte à sabler qu'on étale, qu'on découpe à l'emporte-pièce en petits ronds sur une épaisseur de à peine un centimètre et qu'on cuit non pas au four, mais sur une plaque en fonte comme une crêpière en fait pour les crêpes bretonnes, et avec la lourdeur de l'instrument de cuisson qui maintient une chaleur et qui permet d'avoir un côté un petit peu croustillant dessous
puisqu'on les
retourne et ça reste très fondant.
On les retourne quand même, ce n'est pas
oui,
la cuisson que sur une seule face.
Oui on les retourne et ça cuit en une dizaine de minutes, un petit peu moins.
Faut imaginer un petit palais de 5 cm de diamètre et ça fait un demi centimètre de hauteur.
Oui, un petit peu plus peut-être. Il faut que ce soit quand même un tout petit peu épais pour avoir ce côté fondant. Et un petit peu de levure chimique. Et enfin de d'alza et puis un petit peu d'épices en fait, c'est aussi ça, enfin je pense que c'est ça qui est bon avec les raisins secs, et c'est de l'associer soit avec des épices, soit pour d'autres recettes trempées dans du thé ou dans du whisky, puisque c'est ça le principe, dans du rhum bien sûr, voilà, et là c'est bien un petit mélange d'épices qu'on fait soi-même ou qu'on achète la marque d'épices Nomi fait un mélange pour la citrouille ou un mélange pour le chai qui marche très très bien là-dedans, muscade, cardamome éventuellement, clou de girofle, cannelle, un peu de gingembre.
Qu'est-ce que c'est bon?
Et les raisins ont été mis à tremper dans un
peu
d'eau.
Là, non, pour ça, c'est pas vraiment nécessaire en fait, parce que la cuisson, quand ils apparaissent à la surface, les grillent un peu.
Welsh cake, pas seulement pour le tea time d'ailleurs.
Tout le temps.
Au petit déjeuner, à peu près tout le temps, juste après le footing, pendant l'émission, on va déguster, à peu près tout le temps. Merci beaucoup pour cette recette qu'on peut retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster Kedda Black. Alors, René Reynard, venons-en au raisin de table français, sa santé, son économie. C'est vrai que c'est une question légitime à l'heure où la France produit entre 40 et 50 000 tonnes de raisins de table par an, ce qui fait de la France le 4e producteur européen. Alors que la France a longtemps détenu le leadership, voire le monopole de la culture du raisin de table. Et la situation, quand même, on est obligé de le constater, décline. En 1962, 500 000 tonnes de raisin de table étaient produits en France. Bah aujourd'hui, c'est 10 fois moins.
Mais oui.
Que s'est-il passé?
Ben, on peut que constater que nous avons subi des concurrences, on va pas dire déloyales, mais en France, nous avons le coût de la main-d'œuvre qui est ce qu'il est. Donc, on fait pas de commentaires sur le sujet. Mais ensuite, nous avons aussi des problèmes en permanence d'harcèlement, si on peut qualifier d'harcèlement, au sujet des pesticides, au sujet de tout ce qu'il en est sur l'environnement proprement dit.
Vous êtes en train de dire qu'on fait de l'agro-bashing?
On peut le dire carrément qu'en ce moment, c'est ce qui se passe, mais nous avons quand même aussi, depuis de nombreuses années, réagi en tant que producteur de raisins de table. Et aujourd'hui, nous sommes sur des démarches HVE, justement, haute valeur environnementale.
Comme votre muscat du Ventoux d'ailleurs.
Comme le muscat du Ventoux, tout simplement pour apporter une sécurité auprès de l'environnement et du consommateur.
Bien sûr. Parce que, évidemment, les traces de pesticides, c'est une préoccupation légitime pour les consommateurs. Je vous livre les résultats d'une étude, vous allez me donner votre avis juste après. Selon un état des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France, ça a été publié il y a pas très longtemps, en juin 2019, il y a à peine 2 mois. Le raisin consommé en France est le 3e fruit le plus, je mets des guillemets, pollué, puisqu'il a le plus de traces de pesticides juste après la cerise et la clémentine. Sur les 6 dernières années, 87,3% des échantillons de raisins en France contiennent des résidus de pesticides mesurés.
Alors, raison au harcèlement alors, dont vous parlez.
Alors, tout ce... attendez. Nous sommes avec une production qui est à 50 000 tonnes, qui représente que 20% de la consommation. Et puis ensuite, il faut faire la différence en France et de France.
Ah.
En France, ce sont tous les échantillons qui sont prélevés pour préserver le consommateur, c'est-à-dire, si l'on compare, il y a 20% de raisins français et 80% d'ailleurs. Donc, c'est d'ailleurs qu'il faudrait regarder.
Il est vrai que l'étude porte sur les raisins, sur les étals français, ça ne veut pas dire que ces fruits sont produits en France. Ils peuvent être importés, comme c'est le cas notamment pour les raisins de table, de Turquie, d'Espagne, d'Italie. Hein.
De tout le monde entier, puisque nous avons l'hiver, nous avons le Chili, l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, et bien d'autres encore. Ça va venir avec les Indes et compagnie. Donc, voilà. Aujourd'hui, il faut faire, quand on parle d'études, en toute honnêteté, il faut parler de produits français. Mais si on parle de produits français, forcément, on est anticommunautaire.
Bien sûr.
Parce qu'on fait, on est dans des situations anticommunautaires. Et donc, l'État français, la DGCCRF, le ministère, tous les ministères de l'agriculture, ce sont des fonctionnaires qui font leur travail, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas faire autrement.
Avez-vous un chiffre de production bio en France, du côté des vins de raisin de table? On sait aujourd'hui combien représente ce secteur?
Non, on ne sait pas combien il y a exactement de production de raisin de table bio, tout simplement parce que la production de raisin de table bio est très aléatoire. Elle est très soumise aux conditions climatiques et l'attaque d'insectes.
Alors de nombre de producteurs,
on peut le dire. Moi, en tout cas, sur l'appellation Chasselas-de-Moissac AOP, ce sont 25 producteurs, ce qui représente 7% de la production. Voilà.
À peu près comme dans le vin, en fin de compte.
C'est possible.
On peut cultiver du raisin en se passant de chimie. C'est le Chasselas-de-Moissac de Violaine Molès, par exemple. Violaine n'utilise aucun produit chimique ni désherbant. Ses vignes sont menées en agriculture biologique et on y fait une balade avec Gilles Adjier, le fameux technicien du Chasselas-de-Moissac AOP. Et vous allez voir, eh ben, ça grouille de vie.
Plus on progresse dans la vigne, là, plus quand même, je m'aperçois qu'on a des colorations là qui commencent à venir. Bon, c'est vrai qu'il est midi bientôt que... Qu'est-ce que t'en penses? Les pluies, là, les 50 mm ont beaucoup aidé au grossissement du grain. Hein, le grain est correct.
Maintenant, on espère une chose, c'est avoir un beau mois de septembre,
voilà.
Un beau début octobre pour nous permettre de récolter sereinement.
Bon, moi, je suis pas trop inquiet, là. Il y a quelques dégâts d'oiseaux, mais rien de méchant. Hein. On entend les insectes, hein. Même si la vigne est une plante qui est auto-fertile, elle n'a pas besoin de pollinisation, et notamment d'insectes pollinisateurs, il y a énormément d'insectes quand même dans les vignes. Hein. Là, regardez Stéphane, un grain a été vidé par une abeille. Alors, là, vous voyez.
On a une grappe de raisin avec au milieu, en effet, un grain qui lui voilà. est marron, il est vide, alors que les autres sont bien ronds et bien
tout
bien,
à fait.
Bien
donc gras. Ce sont même des insectes très utiles pour nous, puisque une maladie très importante du chasselas s'appelle le botrytis. Eh bien, ces grains éclatés, vous voyez, Stéphane, ont été vidés par des insectes, et notamment des guêpes, des papillons, des mouches. On a beaucoup de mouches, beaucoup d'insectes qui viennent nous aider, au contraire, dans cette lutte contre le botrytis. Hein, des abeilles sauvages, regardez, qui volent là, auprès de nous là. Et voyez toutes ces plantes là, ça c'est de l'helminthie, ce sont des fleurs jaunes qui nous permettent de garder au sol soit des parasites. Si je prends, vous voyez cette fleur jaune, que je la tape dans mes mains là, généralement on voit tomber des insectes qui sont des insectes nuisibles à la vigne. Et donc on permet à cette flore là qui est en place de garder les parasites au sol et qui ne montent pas sur la vigne.
Les vignes bio en Chasselas-de-Moissac de Violaine Molès. Il y a aussi de la vie dans vos vignes muscat du Ventoux, René Reynard.
Oui, plus que ce qu'il en faudrait. Nous avons des attaques de sangliers, tout simplement parce qu'ils viennent manger les vers. Donc ce qui veut dire que s'il y a du vers, le sol n'est pas pollué par d'autres métaux lourds, je dirais.
Parce que, évidemment, le bio, vous dites que c'est pas forcément la panacée dans la mesure où il y a usage de cuivre qui est un métal lourd aux effets, bien entendu, toxiques, notamment sur les sols.
Ben oui, effectivement. On ne peut pas dire que les bio ne traitent pas, puisqu'ils utilisent des produits naturels, je dirais, en l'occurrence le cuivre et le soufre, utilisés à quantité exponentielle entraîne forcément des pollutions du sol. L'année dernière, par exemple, chaque pluie, il fallait renouveler pour protéger, et au final, ils n'ont rien récolté, puisqu'ils ne sont pas arrivés à protéger. Mais par contre, les sols, ils ont reçu leur dose surconsommation.
Mais vous explorez également d'autres méthodes naturelles pour réduire considérablement, voire éliminer les traitements chimiques. Il y a par exemple ce travail que vous menez conjointement avec l'INRA sur les nouvelles variétés de raisins qui seraient plus résistantes aux maladies, le mildiou, l'oïdium.
Alors, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, nous avons des résistances affirmées sur l'oïdium et le mildiou. Par contre, en matière de variétés, je dirais, on a bien des variétés, mais pour le goût du consommateur, elles ne sont encore pas tout à fait adaptées.
C'est ça.
Ce qui veut dire que dans quelques années, nous ferons tous de la bio, sans le vouloir, et nous ferons,
Grâce à des variétés de raisins plus résistantes.
Grâce à des variétés de raisins pas plus résistantes, résistantes tout court.
Dans combien de temps?
D'ici 5-10 ans.
Voilà. Ça vient.
Et donc, nous sommes en perpétuelle évolution, mais le résultat d'aujourd'hui, c'est que tout de même, depuis 2000, nous avons pensé, c'est-à-dire 20 ans, nous avons commencé à penser à la résistance des variétés. Donc, l'évolution, ce n'est pas la durée d'un mandat. Hein. Un mandat, c'est 5 ans, et l'évolution naturelle, c'est des millions d'années. Mm-hmm. Donc là, en 20 ans, si nous avons progressé, il faut avoir encore un peu de patience pour avoir toute l'évolution qui nous permettra d'avoir plus guerre ou peu d'utilisation de produits phytosanitaires.
Une autre solution très sérieuse, faire écouter de la musique aux raisins. Oui, c'est une expérimentation qui est notamment menée dans le terroir de Moissac, dans les vignes de Julien Custody à Cazes-Mont-Dénard. Notre reporter Stéphane Combe, écoutez bien, a assisté à un drôle de concert.
Alors Julien, là on est au milieu de vos vignes et on est en train d'entendre une espèce de musique, c'est de l'orgue.
En vigne en France, que ce soit en raisin de cuve ou raisin de table, on est face à une grosse problématique qui est la mortalité des souches de vignes et qui représente un pourcentage de mortalité important dans nos parcelles, mais ça va de 2 ou 3% en ce qui nous concerne à du 7 à 8% pour les cépages les plus touchés.
Et en quoi cette musique, cet orgue qu'on entend au loin, intervient dans le combat de ces maladies?
Donc ça, c'est un procédé qui s'appelle la génodique. L'idée, la musique, sert de moyen de transport à des ondes vibratoires, favoriser ou inhiber la production de certaines protéines dans la plante, pour développer sa résistance aux maladies et freiner le développement des champignons, en fait, des maladies du bois.
Et donc on est très pragmatique. Hein. Si ce résultat de baisse de mortalité est confirmé, eh bien ça nous intéresse de près parce que Julien, je crois, ne l'a pas dit, il n'y a plus de solution chimique ou autre sur ces maladies. On est dans un vide complet. L'administration et nos amis de l'INRA ou de l'IFEV, pour l'instant, ne nous ont pas amené de solution pour lutter contre ces maladies. Bon, c'est vrai que c'est pas très mélodieux, mais c'est pas désagréable non plus. Et les riverains nous ont dit qu'ils étaient très contents, au contraire, qu'on puisse participer aux luttes contre les maladies sans produits chimiques, quoi, sans rajouter des pesticides.
La génodique ou le traitement des maladies de la vigne par la musique, vous croyez à cette solution ou pas, René Reynard?
Alors théoriquement, la musique, oui, elle est mélodieuse. Ensuite, il faut avoir des voisins, contrairement à ce qui était dit, qui sont très compatissent, vraiment. Parce que 5 minutes, je pense qu'ils peuvent l'accepter, mais nuit et jour, je pense que ça peut être un peu long. Mais par contre, c'est surtout les traitements de son des ultrasons. Et les ultrasons dans la nature comme cela, on ne sait pas ce que cela peut provoquer.
Donc on est uniquement au stade de l'expérimentation avec l'étude de toutes les conséquences que cela peut avoir. Est-ce que vous aimez le raisin dans le verre, fermenté de préférence?
Je l'aime aussi, puisque avec du muscat, on fait du vin, et un pied de raisin de table, et tout de même un pied de vigne.
Eh bien, c'est le sujet de la chronique de notre ami Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Antoine, vous avez la parole.
Un jeune auditeur dans le salon, dans le studio, m'a dit, mais pourquoi fait-on du vin avec du raisin de table et est-ce que c'est le même raisin? C'est une question qu'on me pose régulièrement, bien évidemment, de savoir, est-ce qu'on utilise le même raisin? Eh ben, très souvent, non, on n'utilise pas le même raisin. Je vais vous parler de ce qu'on utilise pour faire du vin et manger à table, mais globalement, le vigneron, il cherche autre chose que le raisin de table. Il cherche d'abord un rapport jus-peau, très particulier, puisque les raisins rouges vont être macérées. Donc la peau du raisin doit donner quelque chose, des pigments, de la couleur, et puis beaucoup d'autres choses qui vont donner ce fameux goût spécial de terroir qu'on a dans les vins rouges. Le pépin est important aussi. Il doit y avoir beaucoup de notes, de petites notes d'amertume, de petites notes d'acidité qui vont donner des polyphénols, qu'on en a déjà parlé, et qui vont donner vraiment une particularité au vin. Après, le raisin de table, il a du jus. Et ce jus, il est effectivement important, mais il doit être un peu plus structuré pour faire du vin. Donc on aime en bouche croquer simplement cette chair, cette baie, mais dans le raisin, il nous faut davantage. Alors il y a aussi des exceptions, et les deux grandes exceptions, on les a évoquées, c'est bien évidemment le muscat et le chasselas. Le muscat, on le trouve dans le sud de la France, et il y a des appellations de vin, elles sont bien connues, souvent en vin doux naturel, en vin avec des sucres résiduels. On parle de muscat de Rivesal, de Frontignan, muscat de Baume de Venise, dans la vallée du Rhône, mais il est aussi sec, comme en Alsace, par exemple. L'appellation Alsace peut être aussi en muscat. Et puis aujourd'hui, beaucoup en vin de France ou en vin de pays, dans le Roussillon, où ces muscats dits sucrés ne fonctionnent plus trop, ne trouvent plus leur clientèle, et donc les vignerons en font simplement des vins secs. Et puis le chasselas, bien évidemment, on l'a évoqué. Alors le chasselas, il y a une appellation historique dans la Loire, c'est Pouilly-sur-Loire, pas Pouilly-Fussé ni Pouilly-Fumé, je dis bien Pouilly-sur-Loire, une toute petite production de chasselas, pas très intéressant, il faut le dire. En Alsace, toujours, les Alsaciens qui aiment toujours mettre des noms de cépages, ils ont aussi un petit peu de chasselas, mais il en reste très peu. Et par contre, il y en a plus en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, il y a une appellation comme Crépy, Marin, Marignan, des petites appellations où on est pur chasselas. J'en arrive à ma chronique et j'en arrive à mes deux vins.
J'espère.
Voilà, je vous ai amené deux vins faits de chasselas et de muscat. Alors, deux vins de chasselas et de muscat, j'ai cherché vraiment un peu l'originalité. Le chasselas fait des vins que je connais bien. Mon grand-père en faisait, comme beaucoup de gens au fond du jardin, la tonnelle qu'on avait, et puis on faisait quelques bouteilles de vin. C'est généralement assez acide et ça n'a pas beaucoup de goût. Il faut le travailler avec du temps, aller chercher des macérations assez lentes dans ces vin blanc et travailler ses lits. Et là, j'ai trouvé pour moi aujourd'hui ce qui se fait de mieux en chasselas, c'est Dominique Lucas. Dominique Lucas est aujourd'hui le producteur qui fait les chasselas les plus étincelants. Il est en Savoie, il est dans la petite appellation côté de Crépy, mais aujourd'hui, il fait tout en IGP. Mais j'ai retrouvé un vin de 2016, ça s'appelle Quintessence. C'est un vin de Savoie. C'est fait élever principalement dans des contenants assez inertes, donc pas de bois, pas de goût exogène, on va dire, qui va garder la pureté vraiment du chasselas. Et ce chasselas, il a quand même énormément de goût, parce qu'il a ce goût de terroir, ce côté texturé. On n'a pas forcément des arômes, on va pas ouvrir le panier de fruits avec qu'on connaît, la fraise, la framboise et compagnie. Non, non, on va être directement sur le goût. Et moi, j'aime beaucoup, parce que quand on prend un poisson de lac, quand on prend vraiment une viande blanche vraiment d'origine, ça fonctionne très très bien. Voilà. 20, ça coûte,
c'est
à peu
celui-ci,
près,
hein.
Ça, voilà, ça coûte 12-13 euros. Ça s'appelle Les Vins du Léman. C'est fait par Dominique Lucas. Entre parenthèses, ce garçon était travaillé dans les vignes de Lalou Bise-le-Roi en Bourgogne jadis. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien son travail. Maintenant, regardez la petite surprise.
Oula.
Que je vous ai amenée.
Bianc,
je vous laisse lire.
Bianc Doudoui. Bianc Doudoui.
Bianc Doudoui.
Ça Bianc doit Doudoui, être du patois, voilà. On est quoi, du côté du Piémont?
Exactement, du Piémont. C'est un muscat de Canini. Je ne connaissais pas le nom de l'origine, mais par contre, c'est un muscat de macération. Il a été élevé 16 ans, 16 ans,
c'est bon.
Écoutez bien, 16 ans sous voile, comme un vin jaune du Jura. C'est impressionnant de goût, ça s'ouvre sur des notes parfumées, fumées, très grillé même, et puis après on a cette texture comme un bon fromage, un fromage qui a été affiné longuement, et c'est à ça que je pense, c'était ces muscats très aromatiques, il faut les décaler toujours de leur, on va dire, nature un peu évidente de très aromatique, pour les amener sur quelque chose de plus dense. Voilà.
Mais sur des fromages persillés, justement, on est obligé de s'arrêter là. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Antoine, mais merci beaucoup pour ces deux conseils, muscat et chasselas. Mangez d'ailleurs du chasselas de Moissac et du muscat de Ventoux. Buvez-en aussi, avec modération, bien sûr. Merci René Rénal d'avoir fait le déplacement pour être avec nous. Merci beaucoup, Keda Black.
Merci.
Et à très bientôt la semaine prochaine. Je vous emmène en voyage, figurez-vous, en Sicile. La Cucina Siciliana au menu du prochain. On va déguster à dimanche prochain si vous avez encore faim.